I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'autonomie, c'est le pouvoir. Si t'es autonome, c'est toi qui décides. Si t'es pas autonome, tu décides pas. Ce que j'aurais été hors de tout ce que j'ai pu apprendre à l'handicap, c'est si tu peux être autonome, c'est toi qui décides. Et une des raisons pour lesquelles on a parlé de réussite, une des raisons pour lesquelles c'est, pour moi c'est hyper important de réussir, c'est que c'est tout ce qui me sépare d'une assistée, c'est le fait que j'ai réussi ma vie, je suis capable de me loger là où je veux et je suis capable d'aller où je veux. Ce qui fait que j'arrive à me protéger par rapport à une dépendance. Et ça rentre pas dans la discussion en France. Comment est-ce qu'on rend les gens autonomes? En Angleterre, ils ont quand même pas mal de sujets sur ça.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Max, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que je vois? Déjà, je regarde un peu plus bas que les autres. Je vois quelques rides que j'avais pas auparavant. Je vois la marée qui part au niveau capillaire. Je vois forcément mon fauteuil, même si j'ai l'habitude.
Tu as même regardé dans le miroir?
Ouais, je pense que c'est important de savoir comment est-ce qu'on se présente. Ça me déplaît pas, en tout cas. Très beau.
C'est vrai.
Tu comprends.
On est les seuls à avoir le plaisir de te voir, du coup.
Ah bah, c'est dommage.
Merci.
C'est le podcast.
Je vous en prie, les amis.
C'est la magie des podcasts.
Ouais, bah écoute. Non, est-ce que ça me... pour répondre sérieusement à votre question, parce que c'est une question sérieuse, ça me gêne pas, mais parce que je pense que j'ai fait un effort pour que ça me gêne pas. Effectivement, il y a des choses dans mon physique que j'aime pas trop. Notamment, quand vous êtes en fauteuil, il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez pour ne pas grossir, parce que vous faites pas beaucoup d'exercices, par exemple. Et donc, moi, j'ai... des périodes où je suis en régime, des périodes quand je suis pas en régime, je me rends compte que mes jambes sont un peu trop minces par rapport à mes bras, par rapport à mes potes, mais au-delà de ça, je fais avec, pas le choix.
En quoi consiste ton handicap?
J'étais né à 25 semaines au lieu de 40, donc j'étais né mi-cuit, et donc du coup j'étais tout petit. J'étais tout petit quand je suis sorti de ma mère, et donc j'ai ce qu'on appelle une enfermité. Cérébrale-motrice, qui consiste effectivement, il y a des signaux qui ne sont pas envoyés du cerveau aux jambes. Et l'autre partie, en fait, ça affecte tout mon corps, mais principalement mes jambes. Ce qui fait de manière pratique que j'ai un main qui marche un peu moins bien que l'autre, j'ai un œil qui marche un peu moins bien que l'autre. J'ai tout le côté droit de mon corps qui est moins fonctionnel que le côté gauche. Mais de manière générale, si je vous disais pas ça, vous ne le saurez pas. Et je me déplace en fauteuil roulant parce que je ne vais pas marcher.
Et est-ce que c'est quelque chose qui... est-ce que ton handicap évolue avec l'âge?
Oui et non. Ça évolue quand vous grandissez, vous devenez plus lourd, juste en fonction de votre croissance. Et donc effectivement, au niveau musculaire, ça change des choses, mais tu arrives à un certain âge où ça n'a plus d'impact négatif. Après, tu as tous les impacts subsidiaires qui sont liés au fait que tu passes 80% de ton temps assis, quoi.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance?
Carrément. Le docteur disait à mes parents que je serais aveugle, sourde et intellectuellement retardé. Alors, je ne suis pas aveugle, pas sourde. Peut-être que je suis un peu con, on ne sait pas. Et effectivement, ils se rendaient compte que j'étais quand même capable d'interagir avec eux, que j'étais quand même capable de leur faire des signes de communication. Donc, ils avaient plutôt bon espoir jusqu'à ce que j'avais peut-être 2 ans et ma mère se rendait compte qu'elle avait du mal à me faire à me mettre dans une siège de voiture. Parce qu'en fait, j'étais très, très rigide. Et donc ensuite, j'étais diagnostiqué, je pense que quand j'avais 3 ans. Ce qui faisait que j'ai passé, donc j'ai fait toutes mes études et mon enfance en Angleterre, je suis arrivé en France il y a 4 ans. Donc j'ai fait le premier 8 ans de ma vie dans une école spéciale, où on t'apprenait aussi bien toutes les compétences pratiques, comment t'habiller par exemple, comment te faire manger, comment te déplacer dans une salle si vous n'avez pas des choses auxquelles vous pouvez vous accrocher. C'était... couplé avec beaucoup de kinésithérapie. Donc c'était en gros 2/3 de la journée, c'était des kinésithérapies, et 1/3 c'était vraiment des compétences pratiques, mais qui étaient pour les enfants handicapés de tout type. Donc vous avez aussi bien des handicapés mentaux que des handicapés physiques. et chacun s'ajustait à leur propre niveau. Il y avait tout type d'exercices, tout type de chansons et tout ça. Et en fait, ils arrivaient à tenir ce truc où tu avais 30 enfants de tout type différents, avec chacun leurs problèmes, et ils arrivaient quand même à faire tenir les choses, c'est assez impressionnant. Mais effectivement, il y avait aussi bien les cours académiques que les cours pratiques, et moi, j'adorais lire. J'arrivais à tenir plutôt le niveau par rapport à ça. Et j'y étais jusqu'à ce que j'avais 9 ans, et j'étais probablement intellectuellement un des plus capables, par rapport à mon handicap, pas forcément par rapport à un génie brillant, de la classe. Et ce qui faisait que j'avais pas vraiment d'amis de mon âge, parce que finalement j'étais pas vraiment comme eux. Et donc j'avais plus d'amis avec les profs que les autres enfants, parce que j'étais un peu moins handicapé qu'eux. Et ensuite, mes parents, ils avaient décidé de déménager. Donc en fait, elle avait une deuxième maison dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans une région qui s'appelle le Devon, qui est, il y a que des vaches et des gens à la traite. Ce qui est très joli, mais très, très paysanne quand même. Et en fait, ils ont décidé de construire une maison là-bas. On est parti là-bas quand j'avais 9 ans. Donc j'ai passé une année dans une école spéciale, et après, le reste de mes études, c'était dans une école normale, classique.
Et du coup, donc, quand vous déménagez au sud-ouest, à Devon,
ouais.
Qu'est-ce qui se passe du coup, pendant 8 ans ?
Pas grand-chose. c'est assez marrant, parce qu'on aurait pu penser que mes parents, qui me sont très chers, avaient pu comprendre que ce n'était pas forcément le meilleur endroit pour moi. Parce qu'on avait deux maisons, hein, parce que quand on était aménagé, la première maison n'était pas encore construite, donc on a aménagé dans la deuxième maison, avec vraiment au milieu d'une colline. Ce qui n'était pas forcément très pratique quand on est en fauteuil. Et le deuxième où ils habitent encore, c'est toujours sur une colline différente. Mais donc en allemand, j'ai pas fait grand chose. J'ai attendu de partir, chose que j'ai fait dès que je pouvais. Je suis allé à une école normale qui était plutôt bien, qui venait juste d'être construite. Donc en termes d'accessibilité, ça avait tout ce qu'il fallait. Mais c'était tellement loin où j'habitais, que finalement, tu avais des gens qui venaient à d'une heure de distance. Il y avait tellement une domaine tellement large pour cette école que les gens venaient partout. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Bah, je lisais beaucoup.
Et c'est là que tu as formé ta sociabilité, tu as rencontré des amis
Ouais, mais c'est différent. Je me suis rendu compte que je savais toujours parler plutôt aux gens. Et mes parents, ils m'ont toujours inclus dans les choses qu'ils faisaient. Donc quand il y avait des amis à la maison, bah, je me suis toujours parlé à eux. Mais je me rendais compte que quand je suis arrivé à l'école, les autres enfants n'étaient pas du tout prêts à ça. Ils ne comprenaient pas qui j'étais, ce que je savais faire, ce que je ne savais pas faire. Et vu que moi j'étais un peu le geek de la classe parce que je ne faisais que lire pendant 6 ans, c'était assez rude d'aller pour eux et pour moi, parce que finalement, moi je ne les comprenais pas, ils ne me comprenaient pas. Et c'était comme ça jusqu'à ce que, j'ai envie de vous dire, jusqu'à ce que j'ai commencé à boire. Parce qu'en fait, quand vous commencez à boire, vous vous rendez compte que quand les gens, ils veulent pas vous poser des questions directement quand ils sont pas sous. Mais en fait, quand vous achetez à boire aux gens, ils vous disent exactement ce qu'ils pensent. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, quand j'avais 16 ans, je pense, je me suis rendu compte que tout le monde est gentil avec moi, mais j'avais pas d'amis. Je comprenais pas trop pourquoi, parce que ça me paraissait bizarre, quoi. Que tout le monde est sympa, mais finalement, il y avait personne qui est venu à la maison. Et il y avait des soirées auxquelles je n'étais pas invité, je ne comprenais pas. J'avais peut-être un pote qui était un peu mon pont avec tous les autres. Et en fait, quand j'ai commencé à boire, je me suis rendu compte que c'est vrai, les gens ils sont juste mal à l'aise par rapport à ça. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas s'ils peuvent t'inviter chez eux parce que est-ce que tu vas rentrer dans une toilette, est-ce que c'est contagieux. Tu vois, ça paraît con, mais les enfants, ils savent pas. Et personne leur dit oui, personne leur dit non, parce que c'est pas quelque chose qui est verbalisé. Donc, en fait, quand moi, je me suis rendu compte de ça, et aussi, c'est l'âge où les hormones te prennent, bah, j'ai commencé à boire avec eux, j'ai commencé à aller dans les mêmes boires qu'eux, et ils m'ont posé toutes les questions qu'ils me posaient depuis que j'avais 10 ans, quoi.
Quel genre de questions ?
Est-ce que je sens mes jambes ? Est-ce que j'ai jamais marché ? Est-ce que ça me fait de la peine de ne pas marcher ? Est-ce que j'arrive à m'allonger sur le lit ? Est-ce que j'arrive à me laver toute seule ? Est-ce que j'arrive à faire la cuisine toute seule ? Il y a ma grand-mère qui est morte il y a 5 ans. Elle ne comprenait pas que je pouvais cuisiner toute seule. C'était mais juste le truc où elle n'arrivait pas à comprendre. Mais chaque fois qu'on parlait, Elle était très catholique, donc déjà, elle n'arrivait pas à croire que je pouvais vraiment pas marcher. C'est juste que j'ai pas assez prié. Elle était spéciale. Mais elle me demandait chaque fois que je lui parlais, mais est-ce que vous avez... Comment tu fais pour te faire manger? Bah, je cuisine. Non, mais vraiment, comment tu fais? Ce sont des questions que je pense tout le monde se pose ou n'ose pas se poser. Et en fait, quand on avait abordé tout ça avec l'aide d'un peu de lubrifiant alcoolique, les gens, ils étaient beaucoup plus accepting et ils m'acceptaient beaucoup plus. Mais je me suis rendu compte aussi, et ça, c'est une leçon, que c'est toujours à moi de faire l'effort parce que sinon... Je pense que de manière générale, je suis assez timide. Vous n'allez pas le croire, mais je pense que mon naturel, c'est assez timide. Sauf que je me suis rendu compte que finalement, si je faisais ça, bah, rien ne se passera.
Oui, c'est toujours à toi de briser la glace. C'est
toujours à moi de briser la glace, faire l'effort, faire le Black Lord pour qu'ils ne soient pas obligés de le faire. Ce qui est très bien, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Autant que moi, je le fais, je m'y connais mieux. Mais voilà, ça fait que toutes tes relations sont un peu quand même construites.
Et est-ce que tes parents, tu dirais qu'ils te surprotégeaient ou... Parce qu'en fait, tu semblais dire que tu cuisinais déjà tout seul alors que tu avais 16 ans.
Non.
Moi, à 16 ans, je cuisinais pas tout seul.
Alors, non, ils me surprotégeaient pas. J'avais la chance. En fait, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très entreprenants. Mon père, il est homme d'affaires, qui est toujours en voyage. Il m'a toujours emmené avec lui. Ma mère, elle est super forte, capable. On dirait que c'est une. Donc c'est un star d'Hollywood, la manière dont il s'habille et tout ça. Et donc du coup, ils ne m'ont pas surprotégé. Je dirais que même ils ont plus du mal maintenant qu'avant. Parce qu'avant, quand t'es chez eux, ils peuvent tout régler, ils peuvent tout gérer. Maintenant, quand ils voient que je suis à Paris, je vis tout seul, et quand ils voient que l'erreur ne marche pas, ça leur gêne que j'ai oublié de super ça. Ils ont fait quand même un choix très bizarre par rapport à là où j'habitais, je pense. Et j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ils comprenaient pas que c'était un problème. Et je leur ai un peu fait comprendre que c'était pas le bon choix. Et ce qui fait que j'ai un peu de mal à rentrer chez moi, parce que je me sens un peu piégé là-bas. Moi, je rentre pour Noël, je peux faire une semaine, mais pas plus, quoi. J'ai besoin d'être libre, mais je pense que j'ai besoin d'être indépendant. J'ai besoin de le prouver aussi à moi qu'à tout le monde.
Tout à l'heure, tu disais que t'as découvert l'alcool et à quel point ça pouvait aider à briser la glace. Et t'as aussi dit que les hormones commençaient à être travaillées. Comment est-ce que, avec les filles ou les garçons, tu développes ta vie sentimentale ou t'as envie de la développer?
Ça l'était et ça l'est toujours compliqué. Pour les mêmes raisons, pour des raisons assez bêtes, c'est que les gens, ils comprennent pas ce qui est différent. Les gens, ils sont assez curieux par rapport à ce qui est différent, mais ils se remettent vers tout ce qui est particulier. Et moi, je me suis rendu compte, j'étais invité à une soirée quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans. Et c'était un fille que j'aimais bien, j'étais tout content, j'étais invité à la soirée. Au bout d'un moment, dans la conversation, elle me dit, bah écoute, c'est très sympa, je vais aller danser, mais je demande au garçon de venir s'occuper de toi. Et je me suis dit, ah, ça va être compliqué. Ça me disait un peu, dans une phrase, que j'allais vivre pendant les prochains 10 ans, quoi. Et que finalement, elle te voit pas comme un objet romantique, et que finalement, quelqu'un d'autre va te prendre en charge. Et comme ça, elle peut se libérer pour aller danser avec copine et ses copains. Et forcément, ça a blessé un peu au moment, mais je me dis, bah, ok, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Parce que je me suis dit, bon, mes années au lycée, c'est un peu pain perdu parce que finalement, je les connais tous déjà, c'est un petit environnement, ils m'ont tous vu comme j'étais et pas forcément comme je voulais l'être. Et donc, je me dis, bah, quand je vais au fac, tu vas changer. Forcément, toute la gente féminine va tomber à mes pieds. C'était pas forcément comme ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que lors des soirées, j'ai plutôt une facilité avec les filles pour les faire parler, pour les embrasser. Mais quand c'est arrivé au moment fatidique, il y avait toujours un problème. Et c'était toujours un problème de « explique-moi encore une fois pourquoi ça n'arrive pas à marcher. Est-ce que tu sens vraiment tes jambes? Je veux pas te faire mal. » C'était vraiment une inquiétude par rapport à ça. Toi qui n'as pas l'expérience non plus, c'est pas comblé. Donc tu vois, deux personnes qui sont hyper mal à l'aise, c'est pas hyper sexy, mais ça arrivait quand même une quinzaine de fois, quoi. J'avais des filles qui pleuraient au moment... Oh non, c'est hyper bizarre. Parce que je suis attiré par toi, mais je sais pas comment m'y prendre. C'était très compliqué. Et très compliqué pour toi, parce que finalement, tu sais pas comment régler le problème. Et c'est aussi un rejet de toi que ton situation. Bah alors, je pense que les hommes et les femmes, ils ont tous les deux besoin d'être aimés et de se sentir attirant. Mais en tant que jeune homme, c'est juste pas possible, quoi. Tu lui dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelque chose que je peux régler ou pas? Et finalement, avec l'aide d'alcool, j'en ai parlé à toutes mes copines. Et ils m'ont tous donné leurs conseils. Et finalement, quand j'ai 20 ans, ben, j'ai payé. Et le problème était réglé parce que j'ai trouvé un nana assez jeune qui faisait ça pour financer ses études. On a fait toutes les positions. Elle m'a expliqué quoi faire, quoi ne pas faire. On a fait le tour de la situation. Mais c'était, je pense, la seule manière que j'aurais pu m'en sortir. J'étais pas forcément très très pour, parce que éthiquement, c'est un peu tabou. Finalement, elle était hyper sympa, la fille. Vraiment, elle comprenait tout de suite pourquoi je l'appelais. Et j'aurais dû faire ça quand j'avais 16 ans. Quoi. Ça m'aurait épargné 4 ans de peine. En fait, personne n'en parle. Alors, vu que moi, je suis handicapé, je suis pas la personne qui se pose des questions sur les handicapés. Je pense que soit on imagine qu'il peut pas le faire, et effectivement, je pense que c'est un vrai sujet. Soit on sait pas à quel degré ils peuvent le faire. Donc c'est un peu. Moi, je peux comprendre. Chaque fois que tu fais quelque chose pour la première fois, c'est pas fun, quoi. Et tu dis, bah ok, bah moi, je suis une jeune fille ou un jeune garçon, on commence. J'ai le choix de rentrer avec une personne ou pas. Qu'est-ce que je fais? Bah, si je rentre avec eux et les personnes n'est pas capable, bah, je vais être hyper gêné et pour lui et pour elle et pour moi. Est-ce que j'ai envie de me mettre dans ça ou pas? Et je peux comprendre que les gens disent non. Et moi, je me dis, bah, ok, si moi, j'ai jamais sorti avec quelqu'un en fauteuil ou quelqu'un handicapé, je pense que je me poserai les mêmes questions, mais je pense que j'irai au bout des choses pour voir. Parce que j'ai vécu les choses de l'autre côté. Mais je pense que je peux imaginer la gêne que ça peut causer. Et tu vois, toutes les personnes à qui j'ai presque... Parce que j'ai mis quand même beaucoup d'efforts. Hein. 3 mois après, tu auras un grand texto qui te disait « C'est pas toi, c'est moi, je suis désolé. Ne le prends pas mal, ne me déteste pas. » Donc je peux comprendre que psychologiquement, ça pose problème. Et tu vois, quand tu es dans un bar, tu peux parfois entendre des filles qui disent... Donc tu parles à une fille... Et t'as la copine qui dit, bah, t'es sûr que tu vas faire ça? Qu'il est découragé d'aller plus loin.
Et justement, quand t'as vu qu'il y avait des femmes qui étaient mal à l'aise par rapport à ça, est-ce que t'as eu la tentation de te dire, ah bah, je vais essayer de sortir avec des personnes en situation de handicap? Comme ça, elles comprendront.
Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que j'aime pas l'idée qu'on reste entre nous. J'aime pas l'idée que j'ai une partie de la population qui m'est privée parce que je suis handicapé. Je trouve ça moche et je pense que rien qu'au niveau pratique, être en fauteuil à une, c'est compliqué. Je pense qu'être en fauteuil à deux, c'est compliqué. Mais après, ça, c'est une question. Si tu tombes amoureux de quelqu'un qui est handicapé, peu importe. Il se peut que je tombe amoureux d'une nana qui est handicapée. Et dans ce cas-là, la question ne se pose pas. C'est un peu comme les personnes qui disent qu'ils aiment bien les brunes jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux d'une blonde. Et tu vois, c'est plus un problème. Mais ça ne m'est jamais attiré plus que ça. Parce que je pense que ça n'aide pas forcément... Je suis un mauvais militant pour les personnes handicapées, mais je pense que l'idée que les handicapés ne soient capables que de sortir avec les handicapés, je ne pense pas que ce soit positif. Regarde quand même les histoires d'amour handicap. Tu tapes ça sur Google, tu vas trouver que la grande plupart des histoires, c'est des handicapés ensemble.
En situation de handicap physique, c'est-à-dire dans un fauteuil roulant,
ouais.
Ou souvent.
Parfois des handicaps assez variés, et un qui est plus handicapé que l'autre, l'imputer avec quelqu'un qui est en fauteuil, mais souvent, et je dirais pas que j'aime pas ça parce que c'est à eux de faire leur choix, mais ça, c'est pas quelque chose qui m'enthousiasme.
Toi, quand t'étais enfant, ado, tu rêvais de faire quoi comme métier?
Qu'est-ce que je rêvais de faire comme métier? Bah, quand j'étais tout petit, je voulais être chauffeur de bus. Ça a pas resté, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je rêvais de faire? J'avais pas vraiment de rêve précis. J'ai assez pratique, j'ai pas vraiment de rêve.
Et maintenant, tu fais quoi, d'ailleurs?
Maintenant, je suis en charge de recrutement international chez Havas. Avant, j'étais le chasseur de tête, que j'aime beaucoup plus que recrutement interne. Tu fais que boucher les trous. Et hier, j'ai passé l'entretien pour notre cabinet de chasse. Et donc, tu dis quand même, c'est le recrutement, les gens, ils devaient être assez habitués de ça. Il y a quand même une nana qui est venue me voir, qui me disait, Ah, c'est rare qu'on voit des personnes en fauteuil, donc je voulais venir te saluer. Mais ça m'arrive peut-être 3 fois par semaine.
Dans le monde du travail
dans Juste le... dans le monde, juste... pas forcément dans le monde du travail, parce que le monde du travail a un cadre que les gens respectent, plus ou moins. Mais dans la rue. Des gens qui veulent prier pour toi, des gens... Et j'avais un pote qui ne me croyait pas quand je lui disais ça. Du coup, un jour, on était dans un café, et on était assis pas loin des toilettes, et il y avait un cul des gens, il y avait une nana qui est dans le queue. Et je voyais qu'il était bizarre, il vient me voir et me disait « J'ai besoin de prier pour toi. » Et donc moi qui ai l'habitude, bah pourquoi pas, vas-y. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si t'es tellement perché de dire ça, ça sert à rien que je te dise non. Donc elle se met quand même à genoux, la fille, et commence à pleurer. Et ça m'arrive 2 fois par mois, ça. Et tu vois, toutes les clochards, elles aiment pas tous. Les vieux sont terribles. Les vieux, quand ils te regardent, ils stare at you, c'est pas possible.
Ils te fixent, quoi.
Oui, ils te fixent, ouais. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens, quoi. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai pris une Uber il y a un mois, et les mecs, ils me disaient qu'est-ce que t'as fait de ta journée? J'ai travaillé. Non, mais sérieux, là, vous travaillez? Bah écoute, il fait 35 degrés l'été, je suis en costume, cravate. Bah, soit je travaille, soit je suis passé au juge, hein, donc comme vous voulez, mais ça étonne les gens que je travaille assez fréquemment. Et après, t'as beaucoup de gens qui viennent te voir, qui disent bah, je t'admire. Bravo, moi je pourrais pas vivre comme ça. Si j'étais toi, je mettrais une balle dans le... Bah ça, c'est probablement tous les 2 mois.
Hyper violent.
Mais c'est hyper violent, sous couvert de soutien en fait.
Et je pense pas que ce soit, méchant.
Comment tu réagis face à cette...
Bah ça dépend comment je le sens, parce que... En fait, c'est tellement... J'ai tellement de l'habitude que moi, j'ai pas la... Vous avez l'air choqué quand je lui dis ça. Moi, je me choque plus parce que ça fait probablement 20 ans que je vis avec ça. Mais moi, je me dis, et c'est là où je suis pas forcément très bon, si vous êtes tellement con de dire ça à quelqu'un, ça sert à quoi que je vous parle, en fait? Alors que c'est pas bon. Parce que finalement, si on corrige pas les gens, ils changent pas de comportement. Comment est-ce que tu peux être aussi pas intelligent dans ça à quelqu'un? Des gens qui disent qu'ils t'admirent. Bah finalement, si tu m'admires alors que tu me connais pas, c'est pas possible. Mais ce qui fait que moi j'ai une vision très très biaisée de l'admiration, parce que pour moi ça veut rien dire. Et donc je pense que je suis assez cynique quand des gens me disent qu'ils m'admirent, parce que je me dis bah comment tu peux? Et peut-être c'est vrai. Et si c'est vrai, ils ont aussi le droit à ce sentiment d'admiration. Sauf que c'est tellement cheap parce qu'ils me connaissent pas que finalement. Donc c'est assez compliqué, parce que finalement, tu sais pas comment te valoriser par rapport aux autres. Tu sais pas si quelqu'un t'aime, tu sais pas s'il t'aime, parce que pour eux, le fait que t'arrives à te faire tes lacets de chaussures le matin, c'est tellement impressionnant, et voilà. Si vraiment ils te valorisent parce que t'es quelqu'un de bien, si vraiment, tu vois, en fait, c'est ça qui est bizarre.
Est-ce que t'as voulu faire une bonne école et de grandes études et avoir un métier pour qu'ils aillent au-delà du handicap?
Je pense qu'il y a 2 choses. Effectivement, tu as raison. Je pense que la manière dont je me présente au monde par Jean-Marie, c'est professionnel, c'est important pour moi, parce que ça prouve, et à moi et eux, que je suis capable de faire des choses. Et je suis assez convaincu qu'il y a une partie de moi qui n'y croit pas non plus, malgré ce que je fais. Il y a une phrase en anglais qui est « The bigotry of low expectations », qui veut dire que quand on n'attend rien de toi, finalement tout ce que tu fais est génial, mais juste parce qu'on n'a pas d'attente pour toi. Et c'est ça le problème d'handicap, c'est que finalement, vu que le mot d'handicap est tellement vaste, on ne peut pas avoir des attentes pour le groupe. Le fait juste que tu vis, les gens sont impressionnés par ça, sauf que c'est très... Tout ce que tu fais ne compte pas pour eux, parce que déjà, ce que tu fais juste au fait d'être vivre, c'est déjà bon. Donc effectivement, le fait d'avoir des choses concrètes, des achievements et des réussites, pour moi, c'est important. Et c'est aussi important parce que je veux bien réussir ma vie, et c'est aussi important parce que être handicapé, c'est hyper cher. J'imagine que vous prenez le métro souvent, bah vous aurez vu qu'il n'y a pas d'ascenseur à la métro. Il y a 3% des stations de métro qui sont accessibles, pareil. Les RER qui sont très très accessibles, hein, les ascenseurs ne marchent jamais. Si moi je veux aller au cinéma, les cinémas accessibles les plus proches sont à Châtelet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Châtelet c'est d'ici, c'est 2 arrêts des RER. Donc si vous vous perdez dans les stations, vous mettez 20 minutes à maximum, sinon c'est 15 minutes. Sauf que les ascenseurs ne marchent jamais. Donc si vous voulez au ciné, soit vous prenez le bus qui vous prend 15 minutes, soit vous allez en Uber, donc ça vous double votre prix de cinéma. Et c'est comme ça surtout. Cet appart-là, c'est un studio dans un beau quartier de Paris, mais j'ai pris parce que j'ai pensé que c'est la Champs-Élysées avant. Donc, du coup, je voulais être proche de mon travail pour ne pas avoir des galères de transport. Bah, j'ai payé 1300 euros. Donc ce qui veut dire que soit je gagne beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheter mieux, Soit je n'avance pas dans ma vie parce que je paie la moitié de mon salaire sur mon loyer. T'es piégé dans ma confort. Donc il faut absolument que je réussisse ma vie parce que sinon je ne vais pouvoir rien faire. Donc les deux choses sont liées. Il y a un parti psychologique auquel tu fais référence qui est vrai. Il y a aussi juste un parti hyper pratique et beaucoup des choses handicapées sont ici, sont questions pratiques. C'est que si je ne gagne pas beaucoup ma vie, je suis très limité dans ce que je pourrais faire.
Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais timide et en même temps, comme tu es obligé d'être un briseur de glace professionnel, est-ce que tu dirais que tu es un introverti contrarié par la nature ou comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens sociable par choix?
Je sais plus ce qui est par choix et ce qui n'est pas par choix en fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut juste faire ce qui marche. Et en fait, si tu as besoin de parler aux gens pour qu'ils te parlent, bah, tu leur parles. Moi, je suis assez pragmatique. J'essaie de l'être en tout cas. J'ai pas beaucoup d'état d'âme sur ce qui j'aurais pu être si je n'étais pas handicapé. Même si forcément j'y pense un peu. J'y pense plus à, par exemple, tu vois, quand j'ai des enfants, si je peux pas jouer au foot avec mon fils, c'est dingue. Mais des choses comme ça qui me tracassent plus que l'homme que j'aurais pu être ou si je voulais être pompier. Alors, tu vois, quand je pense au là où j'aimerais aller en vacances, je me dis toujours, bah, l'Amérique du Sud, probablement pas. L'Inde, probablement pas. Mais j'ai des potes qui tu vois, qui font des voyages et ça me rend un peu jaloux. Rien que le fait que quand tu vas dans un bar, tout le monde est debout et toi, t'es assis. Tu passes ta soirée à hurler aux gens pour qu'ils t'entendent. Et ensuite, tout le monde te renverse leur verre parce qu'il ne faut pas que t'es là. Et donc, du coup, je finis avec... Et ça, c'était le pire. Compter en boîte. C'est la machine avec la fumée artificielle. Pour tout le monde, c'est top. Sauf que toi, je suis au niveau. C'est la fumée artificielle. Donc moi, je suis cassé pendant genre 4 minutes le temps qu'il met les trucs. T'as toute la... Et toute la... Tu vois, la merde de la... du sol là qui ressort et tout ça. Bah, c'est très sympa.
J'avais jamais réfléchi à ça.
Bah non. Ça n'a pas surtout... Moi, je bois beaucoup de whisky. Mais pour la seule et bonne raison, parce que si je bois de la bière... Et les toilettes, c'est en bas, je peux pas aller aux toilettes. Et donc, du coup, tu bois deux pintes et tu as besoin d'aller pisser, bah, tu peux pas.
Et est-ce que tu dirais que, justement, tu as parlé de tes amis quand tu les rejoins dans un bar et tout, est-ce que tu dirais que ton entourage est... J'aime pas ce terme-là de sensibiliser. Est-ce que ton entourage est conscient?
Ouais, ils le sont.
Ils proposent des bars qui sont accessibles. Est-ce que c'est du tac au tac, désormais?
Oui, non, ils sont assez... En fait, c'est vraiment, t'as une phase où ils sont très gênés. Des amis que tu connais pas, qui sont très gênés. Et il s'avère que, tu vois, j'ai un collègue qui a fait un pot dans un resto pour son anniversaire, qui elle est mexicaine et elle a proposé un resto sud-américain. Et il s'avère que j'ai besoin d'aller aux toilettes et les toilettes n'est pas accessible. Bah, c'est hyper gêné. Elle m'a envoyé deux textos, un mail. C'est pas un problème. J'ai l'habitude d'aller sortir chercher ailleurs. Mais pour elle, ça pose des problèmes. Limite, ça l'a gâché son soir. Ce qui m'a fait de la peine parce que c'est pas le but que ça lui pose problème. Donc, t'as une phase où tout le monde est gêné et tout le monde fait super attention. Ou des gens qui sont juste, qui s'inquiètent pour ça. J'ai des amis allemands que j'aime beaucoup, qui sont adorables, mais chaque fois que j'y vais, c'est on double check trois fois, s'il y a des toilettes et finalement, c'est un peu long quoi. Et après, t'as des amis qui sont des vrais amis qui disent bah, si t'as besoin de monter en nous, on te monte en nous. Plus tes amis, mec d'ailleurs. Mais c'est toujours un journey, c'est toujours un voyage entre première phase d'inquiétude et d'aisance avec ça, jusqu'à ce que, bah, si on a besoin de se tenir debout tant que tu pisses, bah, on le fait.
Et d'un point de vue sentimental, est-ce que tu as réussi à trouver une parade pour briser la glace ou bien rencontrer des gens qui sont... Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a des applications de rencontre, par exemple?
Non, c'est pas trop... En fait, c'est compliqué avec les dates, c'est compliqué parce que il faut que la personne soit assez à l'aise avec toi pour qu'il soit à l'aise, mais pas super à l'aise pour que tu sois friendzoné. Et donc ça, c'est un peu compliqué. T'arrives au troisième date où tu dis bah finalement il va falloir que je bouge un peu parce que sinon ça va pas se faire. Ou sinon tu fais le contraire et tu fais un blague un peu lourde dès les débuts et t'es un peu lourde quoi. Donc en fait, les gestions de non-dit, c'est compliqué.
C'est un peu une double injonction contradictoire. À la fois, on attend que tu fasses le premier pas, et en même temps, on s'attend pas à ce que tu le fasses. Enfin...
Je pense pas qu'ils attendent. Mais moi, je sais que si je le fais, ils vont pas le faire. Je connais peu de filles qui vont dire, bah, lui, celui-là, en bas, là, j'aimerais bien l'avoir. En même temps, ça leur change tellement leurs idées que c'est compliqué. Et c'est difficile à faire le screening entre les deux. Et je me suis quand même posé la question, si j'étais gay, est-ce que ça est plus facile? Parce que est-ce que les hommes se comprennent plus? Est-ce que les hommes, finalement, ils comprennent que, fondamentalement, les hommes et les femmes ne se comprennent pas forcément dans les meilleurs des cas? Je sais pas.
Ouais, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, on est dans une société patriarcale, et du coup, les femmes, en général, à cause du conditionnement social, attendent de la part des hommes qu'ils fassent le premier pas, et en même temps, comme t'es en situation de handicap, elles se disent « Ah mon Dieu, mais est-ce qu'il va le faire ?»
Ouais,
va le
faire. Je pense, coup, je pense, donc déjà, t'as un premier problème, c'est que je pense que les femmes, de manière générale, ils se font plus avoir un homme qui est capable de le prendre dans ses bras. Moi, je suis pas forcément très grand. Je suis très drôle, heureusement. Mais encore une fois, il me fallait l'être. Donc, quelle partie de moi est vraiment drôle et quelle partie de ça, c'est une construction. Donc déjà, il y a un problème dès le départ, c'est que je ne confonds pas aux stéréotypes de l'homme que les femmes veulent avoir. Ensuite, effectivement, comme tu dis, il y a un problème de double paradoxe, comme tu dis.
J'aimerais bien revenir sur la question des femmes en situation de handicap. Faut pas non plus penser que ces femmes-là attendent que les hommes hétérosexuels les draguent. C'est qu'en fait, les femmes... Enfin, j'ai lu un rapport du CLE qui en parlait. C'est que ces femmes sont doublement infantilisées. Déjà, en tant que femme, tu étais infantilisée. Ouais. Quand, et du coup, asexualisée. Donc, c'est pas
forcément... Mais aussi, je pense que c'est pire pour les hommes.
En situation de handicap, ouais. Oui. Il y a une certaine... je sais pas, une émasculation, je sais pas le terme exact.
Oui, il y a une émasculation, effectivement. Mmh. Je pense que c'est le cas et je pense que c'est vraiment un sujet. Et je pense que c'est un sujet. Moi, j'ai pas mal de confiance en moi, donc ça m'a blessé, mais ça m'a pas traumatisé.
Tu disais tout à l'heure, soit j'y vais en douceur et du coup ça peut attendre le troisième date et je suis friendzonée, soit tout de suite je fais des blagues lourdes.
Ouais.
Et c'est un peu le seul moyen en fait de rappeler que t'es un être sexuel.
C'est le seul moyen, je sais pas, je cherche toujours un meilleur moyen. Je suis preneur de toute idée, hein, mais, mais effectivement, j'ai déjà assez d'amis, je pense. Quelque part, j'ai pas le temps de les voir tous déjà. Si je... Qui en est responsable, quelque part? Est-ce que c'est moi parce que j'en fais pas assez? Est-ce que c'est eux qui ont pas de mon question? Et comme on s'était dit, il n'y a pas de communauté qui s'entraide sur ça parce que tous les handicapés sont tellement différents qu'il n'y a pas vrai, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de rôle modèle, il n'y a pas de... Et en même temps, c'est bien que les gens aient les choix. Moi, je pense, par exemple, la génération des grands-parents, bah, tu te mettais avec la première fille de ton village et tu vivais un mariage malheureux pendant 60 ans. Le côté négatif, donc qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas forcément dans les cases? Et comment est-ce qu'on éduque les gens? Déjà, est-ce qu'on peut éduquer les gens pour trouver les gens qui ne trouvaient pas attirants? Est-ce qu'il y a un changement intellectuel qui peut être fait ou non? Je ne sais pas. Est-ce que c'est purement physique ou pas? Je ne sais pas. S'il y a un changement intellectuel, bah, comment s'y faire? C'est une question à poser.
Est-ce que tu as déjà eu des femmes fétichistes?
Non, j'ai pas eu. Non.
Est-ce qu'on t'a déjà approché par rapport à ça ou t'as entendu des trucs qui
sont... Non, parce que les femmes, c'est les mecs qui sont sales. Les femmes, je pense qu'elles ne le font pas. J'ai déjà eu des hommes gays qui m'ont proposé des choses comme ça. Alors que ce n'était pas l'utilisation dans une boîte gay ou quoi que ce soit. Mais pas les femmes.
Et donc, en fait, il y a des fétichistes, des handicapés.
Oui, il y en a, ouais. Plus pour les femmes, alors de ce que j'ai pu comprendre, parce que moi c'est jamais arrivé, j'ai pu comprendre qu'il y a des fétichistes plus pour les femmes handicapées.
Et moi, justement, par rapport au fétichisme, pour toi, ça ne te pose aucun problème d'être vu comme un objet sexuel?
Bah, je préférais ça que de ne pas être vu comme un objet sexuel. Moi, le problème est plutôt l'inverse. Le problème, c'est d'être vu soit comme un vieux, soit comme un enfant. Et une des raisons pour lesquelles j'étais content d'avoir quitté l'Angleterre, c'est qu'en fait, j'avais tellement l'habitude de la manière dont les gens m'abordaient. C'est-à-dire qu'ils disaient exactement la même chose chaque fois. Bah, est-ce que je peux t'aider? Bah, non, merci. Tu sais, moi, je comprends ta situation, hein, parce que moi j'ai un voisin qui a Parkinson's et c'est toujours un truc comme ça où j'ai tu vois ma tante qui était en fauteuil et donc je l'ai poussée, donc je t'admire, mais c'était 3 fois par semaine que ça m'arrivait. En France, au moins, on te laisse plus ou moins tranquille. On te traite comme un vieux soldat. On t'appelle monsieur, même si on a le même âge. Donc, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'était différent et j'avais besoin de la différence.
Tu disais tout à l'heure que tu avais voulu venir en France un petit peu aussi pour échapper à tes parents. Et là, tu évoquais le rapport différent au handicap entre l'Angleterre et la France. Qu'est-ce que tu as constaté comme différence ?
En Angleterre, ça se traite beaucoup plus comme un enfant. C'est-à-dire que tu vas faire la queue dans un café pour acheter un café, tu auras une vieille dame qui va venir te casser les cheveux. Moi, je me souviens d'une débat. Alors, ça arrive en France aussi. Les gens, ils sont étonnés que tu prends la train tout seul. Moi, je voulais bien acheter un billet. Et donc, vous êtes vraiment tout seul ? Oui, je suis tout seul. Vous n'avez pas peut-être un parent ou un ami qui peut venir vous accompagner ? C'est peut-être mieux, non ? Donc, effectivement, c'est vraiment infantilisé. En France, c'est les Français sont plus timides que les Anglais. Donc, tu vois, un Français, peut-être qu'il va penser ça, mais il ne veut pas le dire, alors que l'Anglais, bah, il n'a rien à foutre, il va dire exactement ce qu'il arrive en tête. L'Angleterre, en termes d'infrastructure, est beaucoup mieux que la France. En termes des bâtiments, en termes d'ascenseurs et tout ça. Donc, moi, j'avais beaucoup moins de mal à... je ne devais pas me déplacer parce que Londres c'est un peu spécifique, mais j'ai toujours trouvé un cinéma, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de toilette, alors qu'ici à Paris, j'ai dû trouver le Bon Agendas qui est une toilette au rez-de-chaussée, opéra, j'ai dû trouver dans tous mes quartiers, j'ai 2 ou 3 adresses, il y en a qui cherchent l'amour, moi je cherche les toilettes, et je me suis posé la question, est-ce que je vais vivre à Londres, parce qu'au bout d'un moment j'ai un peu marre de Paris et tout ça. Là, quand je cherche un job, c'est hyper compliqué parce que la plupart des bâtiments sont pas accessibles. La Défense, toutes les grandes entreprises sont basées à la Défense à Paris, sauf que les ascenseurs de l'Esplanade à la gare routière marchent 1 fois sur 4. J'imagine que t'es déjà passé par là, t'as déjà vu les ascenseurs toujours en panne. Ce qui veut dire, dans les faits, que moi je peux pas travailler à la Défense. Donc c'est une discrimination qui est assez importante quand même, parce que t'as quand même le centre économique de la région parisienne qui t'est coupé. Et donc, jusqu'à ce que t'as les handicapés qui bossent et qui se déplacent et qui gagnent de l'argent et qui sont capables de faire tout ça, la situation va pas se malheurer parce que ils seront de fait assistés parce qu'ils ont pas d'argent. Donc, la question d'infrastructure, c'est hyper important. Si il y a plus de handicapés qui circulent, les gens le comprendront mieux. La raison pour laquelle les gens sont mal à l'aise, c'est parce qu'ils en voient pas. Toujours est-il que, c'est quand même une ville capitale. Et tout le monde va veiller, tout le monde va faire en geste, quelque part. Je pense que si ça passait dans les années 50, quand on mettait les gens en institution, ça passera plus, quoi. J'espère qu'il y a un changement de mentalité par rapport à ça, je pense qu'il y aura. J'espère aussi qu'avec les JO 2024, tu ne peux pas avoir des photos des mecs en fauteuil sur les quais de la Loire, c'est pas possible.
Et à ton avis, par quoi ça pourrait passer justement cette visibilisation-là des personnes en situation de handicap, pour que justement elles soient prises en compte, quoi, parce qu'on ne les voit pas comme tu l'as dit.
Je pense qu'il faut... je pense que ça passe beaucoup par le travail. Mais je pense que si les mecs travaillent, ils ont de l'argent. S'ils ont de l'argent, ils sortent. S'ils sortent, ils font des potes et ils vont dans des endroits différents. Je pense qu'il y a un vrai sujet de manque de travail. Et du coup, vu que les gens considèrent que tu ne travailles pas, par exemple, tu prends le train, il ne peut pas mettre le premier, bah, le deuxième, bah, c'est pas grave, on te mettrait sur le 11h40, pas non, parce que j'ai une réunion à 10h. Mais parce qu'on te traite comme un retraité, bah, c'est pas grave si tu prends pas le train. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le travail et qui passent justement par dire, arrêter de traiter les handicapés comme des êtres différents. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément très très pour l'idée que les handicapés restent ensemble, parce que finalement... Moi, tout ce que j'ai fait dans les mondes des valides. Moi, j'ai pas d'amis handicapés. Pas parce que je les évite, mais juste parce que j'en ai pas. Et j'ai pu quand même intégrer.
Et est-ce que tu crois que ça passerait aussi par les médias, où au final, les médias sont de visibilisation ? Dans les médias, quand tu parles de médias, c'est tous les médiums possibles. Hein,
Alors, c'est forcément important. Après, il faut avoir des choses qui ont des... Par exemple, si on parle d'une drame, des personnages handicapés, mais dont l'histoire n'est pas celle d'un handicap. Il faut voir les personnages handicapés. Déjà, pas comme souffrant de l'handicap. Deuxièmement, pas comme si c'est la seule chose qu'ils font dans leur vie. Et donc, du coup, entre le moment où il se met dans sa chaise et le moment où il se couche le soir, il passe sa journée à aller dans la santé et l'éducation. Mais qu'il a des amis, ou qu'elle a des amis, qu'elle sort, qu'elle travaille. Et montrer, de manière assez peu dramatique, que tout le monde a des vers réels. Et aussi, je pense qu'il faut faire une séparation entre ceux qui sont handicapés mental et ceux qui sont handicapés moteur. Parce que c'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose.
Tu parlais de médias, ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi cette... Ok, il y a la question du handicap moteur par rapport au handicap mental, mais il y a aussi la question des handicaps visibles et invisibles. Mmh. Et dans les médias, par exemple à la télévision, il y a des quotas à respecter. Et est-ce qu'effectivement, si tu mets un mec qui a un handicap mental, bah, le téléspectateur ne va pas voir qu'il est handicapé, donc est-ce que ça va compter dans les quotas?
Il faut que ce soit visible dans une institution où le mec porte une camisole, dans le sensationnalisme. Et du coup, c'est toujours les mêmes schémas, quoi.
Bah, sur France Télévisions, dans toutes les séries produites, t'as un handicapé pour les quotas. Et c'est un handicapé en fauteuil roulant. Parce que c'est le truc le plus visible. Et tu te dis, bon, voilà, comme ça, on peut pas le rater. Un aveugle avec une canne, non, c'est bof, c'est trop subtil.
Quand il y avait Intouchable, tout le monde m'en a parlé pendant 2 ans.
J'ai toujours pas vu le film, spoil pas.
Ah oui, tu devrais le regarder, c'est bien. Oui, il faut le regarder. Mais regarde, mais ne m'en parle pas pendant 2 ans, s'il te plaît.
Non, bah non.
Moi, c'est pas le handicap qu'imaginais, c'est plus genre Omar, genre assistant personnel, je sais.
Oui, oui,
mais c'est derrière son personnage, je pense. Enfin, de ce que j'ai entendu.
Après, il y a un sujet qui a plus de noirs qui sont des travails. Ouais, c'est un homme-riche qui a un accident de. Tout le monde m'en a parlé, hein. Donc, je peux te raconter scène par scène. C'est un homme-riche qui a un accident de hang glider, je crois. Ouais. Qui se casse le cou. Et.
Du coup, il est tétraplégique.
D'accord. Du coup, il est tétraplégique. Et en fait, Omar Sy, c'est un espèce de. Ouais, dans un banlieue qui est pas très favorisé et que donc en fait chacun apprend à l'autre, donc l'homme riche apprend le culture au mec de banlieue.
C'est tout ce que je déteste.
Non, mais c'est une vraie histoire. C'est une histoire vraie. Tu dis que tu détestes parce que tu n'aimes pas l'idée de ça, mais effectivement c'est vrai. C'est ça que j'aime pas dans les politiques identitaires. Tout de suite tu arrives à un jugement sur le truc.
C'est quoi le but de romancer? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
C'est pas romancer, c'est une vraie histoire.
Et genre, c'est de A à Z la même chose, exactement ce qui s'est passé.
Oui, c'est, en fait, les deux, donc ils sont restés amis, les soignants et l'handicapé, ils sont restés amis. Et c'était, effectivement, il y a une histoire morale derrière que chacun peut apprendre quelque chose de chacun. Mais effectivement, c'est une histoire vraie que l'homme riche et cultivé a appris aux jeunes qui n'avaient pas la culture ce que c'était la culture. Et l'homme pauvre l'a appris aux jeunes hommes riches qui étaient... enfermé en lui-même parce qu'il ne croyait pas capable de vivre une vie active et fun, ce que c'était d'avoir une vie fun et de s'amuser.
Et arrête-moi si je me trompe, mais qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Est-ce que c'est le fait de voir à nouveau ce stéréotype-là à la télé et tout? Et toujours les mêmes principes associés à l'homme noir qui est aide à la personne.
Non, c'est même pas ça. En fait, c'est la morale derrière, c'est qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Mais bien sûr qu'on peut apprendre les uns des autres. Mais en fait, au-delà d'apprendre humainement, ce que ça montre, c'est que il y a des questions qui sont dépolitisées, en fait. Il y a cet homme riche-là qui... ok, il a apporté quelque chose, le capital culturel, c'est important pour t'élever socialement, par le pouvoir, ça. Enfin,
c'est très important.
Mais c'est moi, c'est comme le dernier film avec Camélia Jordana et je sais plus qui.
Daniel Auteuil.
Daniel Auteuil.
C'est les mêmes acteurs.
C'est la même chose, quoi. C'est ce côté, tu viens de banlieue, je t'apporte le savoir. Oui, mais c'est très français, philosophie. Ça. C'est très français. Ouais, c'est très français. Et c'est une certaine condescendance dans ce. Dans ce truc où c'est d'humain à humain, et en fait, c'est comme ça qu'on va évoluer. Non, parce que collectivement, il y a autre chose.
Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas nier. Ok, il y a autre chose, mais on ne peut pas nier que c'est la vérité.
Oui, c'est une vérité.
C'est la vérité.
C'est une réalité.
Et moi, j'aurais aimé, quand j'étais petit, être entouré par des hommes et pas que des femmes, et pas que des femmes d'un certain âge, d'ailleurs.
C'est-à-dire
corps médical ou...
Bah, quand j'étais dans cette école spécialisée, c'est tous des nanas qui ont plus de 50 ans et qui sont en mode grand-mère. Et effectivement, avoir des hommes, ça aurait été probablement bien aussi. Ouais. Ou des femmes jeunes, ou des... tu vois.
de la diversité dans le
corps. Ouais, de sortir de cette idée qu'on s'occupe de soi.
D'être materné, en soi. Ouais, pas des figures maternelles.
Ou grand maternelle, même. En fait, parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude. En Angleterre, on parle toujours de tennis ou basket. Ah, donc du coup, tu joues au sport, ça t'a dit lundi sport. Et pourtant, encore une fois, comment est-ce que vous luttez contre la bienveillance? Parce que...
La bienveillance déplacée, est-ce qu'il faut lutter contre?
Je sais pas. Je me pose les questions presque tous les jours et je sais pas quelle est la bonne réponse. Si tu luttes contre, tu passes toute ta journée énervé parce que les gens te prennent mal quand tu essaies de leur... de leur faire comprendre qu'ils ont tort. Et ils apprécient pas. Eux, ils essaient de faire quelque chose de sympa. Je me souviens toujours, il y avait une dame. On est 4 fois si je voulais qu'elle me pousse pour traverser la route. Donc je lui dis non, je vois 4 fois. Et elle fait quand même. Je vais aider quand même. Mais c'est une vieille dame, elle avait 70 ans. Est-ce que je vais lui gueuler? Non.
Là c'est une vieille, donc elle est butée.
Oui, mais. Oui.
Mais bon, ça excuse pas tout, quoi. Est-ce que t'es déjà sorti de tes gonds? Ou tu t'es toujours.
Non, je suis tellement habitué, tu sais.
Ouais.
En fait, ça te choque pas, ça te touche pas, mais tu dis. En fait, je me pose des questions sur ce que je devrais faire. Je me dis, finalement, est-ce que je me culpabilise un peu parce que je suis pas un militant, parce que je vais pas aux associations, je soutiens pas la cause, je vais pas sur les marches. Les marches, je sais pas ce qui s'appelle, ça marche, je sais pas comment ça s'appelle avec les gens en fauteuil. La pousse. Je vais pas sur les pousses. et je me dis, finalement, c'est assez mauvais parce que je prends pas ma part. En même temps, je ne veux pas être. Je ne veux pas que ma vie sorte sur mon handicap. C'est une partie de ma vie, mais je veux pas m'identifier à 100% avec mon handicap parce que je trouve ça. Quelque part, ça peut effacer le reste de ma personne. C'est les choses de moi que j'aime, que j'aime le moins, et pourtant c'est les choses dont les gens m'identifient le plus. C'est ça qui est compliqué. C'est ça le paradoxe.
En fait, Max, j'ai l'impression que tu as cette réticence au niveau du militantisme, et en même temps une idée très fermée de ce que c'est que le militantisme au niveau des personnes en situation de handicap. Et j'ai l'impression que tu te fais une idée un peu... pas fausse de ce que c'est que le militantisme.
Tu peux très bien dire que c'est fausse et je souhaite que tu aies raison. Moi, de ce que j'ai pu trouver, je n'ai pas trouvé une idée de l'handicap qui me correspondait. Je n'ai pas trouvé des communautés d'handicapés qui étaient des personnes intégrationnistes, on va dire ça comme ça, qui se voyaient faisant partie d'une société plus large avec leurs propres problèmes et difficultés qui sont associés à l'handicap. Entre guillemets, le problème...
Et donc pour toi, en fait, ta vie n'est pas politique.
Si, ma vie est politique. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par la politique. Je fais des études en sciences politiques. Ce n'est pas pour ça que je suis... que j'ai un sens d'identité d'handicapé qui est très fort. Pour moi, toutes les identités ne sont pas politiques et toute la politique n'est pas l'identité. Je ne vois pas la cohérence logique dans l'idée d'avoir une idée d'handicap parce que l'handicap est tellement divers, d'une... De deux, je trouve que de ce que j'ai vécu, et c'est toujours soit quelque chose qui est très étatiste, dans le sens où on demande au État de nous filer des subventions, assez de gauche, qui en soi ne me gêne pas, mais avec cette idée de finalement, c'est pas nous qui est forcément responsable de notre sort, c'est plutôt à l'État de nous sauver, ce qui n'est pas forcément ce qui est. Alors qu'il y a des choses que l'État doit faire au niveau réglementation, et ça, je suis complètement. On avait parlé des normes d'accessibilité, qui est une catastrophe. Mais c'est pas tout à fait lié les deux. Et je pense que si on demande aux autres de faire pour nous, on le fait pas nous-mêmes. Soit c'est lié à la religion. Donc c'est très bon catholique. On t'amène à l'ordre si tu veux. On perd les nages. Soit c'est sportif et j'ai pas d'handisport. Et moi, j'avais mis sur Facebook il y a 7-8 mois que j'étais intéressé de rencontrer d'autres gars épais, ambitieux, actifs dans leur vie. Je n'ai pas trouvé. Et j'ai fait partie de deux groupes Facebook sur l'handicap. Il y en a un qui est sur la démarche administrative de l'handicap. Et ça, c'est vraiment... je perds 400 euros ces mois-ci, comment je fais? Parce que c'est vraiment comment est-ce que je traite avec l'administration française, comment est-ce que je traite avec l'MDPH, qui est la maison départementale des personnes handicapées. Ou j'en ai un autre qui est « Tu sais, t'es handicapé quand ?» qui est juste des mimes qui sont assez marrants. J'en ai un autre qui c'est « La mort et la handisexualité », où c'est que des mecs qui disent qu'ils sont toujours pousseux et comment ils vont s'en sortir. Le groupe handisexualité, c'est assez intéressant, parce qu'il n'y a personne qui propose des solutions. C'est que des gens qui constatent la situation. C'est pas très encourageant, quoi.
Tu disais, le monde du travail... En fait, la visibilisation passe beaucoup par le monde du travail.
Alors, ce que j'y pense après, peut-être que j'ai pas raison, mais je pense.
Non, mais je pense que t'as entièrement raison. D'une part, parce qu'effectivement, ça t'amène à être montré comme compétent, sociable, et ensuite t'as de l'argent, donc tu vas le dépenser dans des lieux publics et tout, etc. Mais c'est aussi l'argent, c'est le pouvoir, en fait. Et ouais. Du coup, c'est de l'argent.
L'autonomie, c'est le pouvoir. Si t'es autonome, c'est toi qui décides. Si t'es pas autonome, tu décides pas. Moi, ce que je retire de tout ce que j'ai pu apprendre à l'handicap, c'est si tu peux être autonome, c'est toi qui décides. Et une des raisons pour lesquelles on a parlé de réussite, une des raisons pour lesquelles pour moi c'est hyper important de réussir, c'est que c'est tout ce qui me sépare d'une assistée, c'est le fait que j'ai réussi ma vie, je suis capable de me loger là où je veux et je suis capable d'aller où je veux. Ce qui fait que j'arrive à me protéger par rapport à une dépendance que je pourrais avoir autrement. Donc pour moi l'autonomie c'est hyper important et ça rentre pas dans la discussion en France. Comment est-ce qu'on rend les gens autonomes? En Angleterre, ils ont quand même pas mal de sujets sur ça. En Angleterre, par exemple, moi, je conduis pas à Paris, mais quand j'étais en Angleterre, je conduisais. Et en fait, ils ont un système où chaque personne, ici à Paris, je ne sois pas d'alloc. Hein. Je ne sois absolument rien parce que je gagne trop d'argent. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est tout est relatif, mais je ne suis pas non plus riche. Je gagne un salaire respectable. Je ne touche rien. Si je touchais... je sais pas, 300 euros par mois pour les transports, je ferais probablement beaucoup plus de choses. En Angleterre, ils te donnent le choix. Ils disent soit tu peux avoir des allocations monétaires, soit on va toutes les prendre et on va t'acheter une voiture. Et tous les 3 ans, tu as une nouvelle voiture qui arrive. On te paye tous les taxes, tous les trucs et on te paye les adaptations. Si moi, ici à Paris, je voulais acheter une voiture, il faut que j'achète la voiture. Ensuite, il faut que je le fasse adapter. Donc, admettons que j'achète un bagnole à, je sais pas, 3 000, adaptation 2 000, 5 000 la voiture, avant de rouler 1 km.
Oui, c'est vraiment une situation systémique où il y a plein de lieux qui ne sont pas adaptés, mais on ne t'aide pas pour y accéder quand même. Du coup, peut-être que tu es amené à travailler de chez toi, donc tu es invisible.
Oui, c'est ça.
Et les gens pensent encore moins à toi, donc on rend encore moins les infrastructures...
c'est ça, exactement. T'as tout compris.
...compétentes dans une société absolument validiste.
Et moi, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que les médias vont véhiculer aussi cette sémantique-là du « Ah non, mais cette personne est tellement courageuse, bien... Ouais. » Enfin, c'est tellement en dépassement de soi, malgré son handicap, en dépit de... En fait, j'ai lu un article, justement, de l'association du CRE, qui lutte contre le validisme, et qui racontait, en fait, qu'à chaque fois, les médias vont être dans cette terminologie-là, dans du sensible, il faut sensibiliser les gens. Ouais. Comme si c'était un truc extraordinaire.
Oui, quoi. Comme et si, par exemple, au travail, nous, on a une journée d'handicap. Et donc, pendant la journée d'handicap, on fait des activités qui sont sous mise en œuvre à l'handicap. Et donc, pendant une journée, après la cette année, on ne fait rien. Et donc, ça fait, au lieu de faire l'handicap quelque chose de récurrent et d'habituel, on fait quelque chose d'exceptionnel. C'est toujours l'exception. Et n'importe où je suis l'exception. Heureusement que je suis exceptionnel, mais néanmoins. Et tu vois, je fais des blagues faciles.
Oui, et en même temps, c'est pas anodin que tu aies ce genre de personnalité-là. On en parlait, tu es obligé d'être un briseur de glace aussi, quelque part.
Je pense.
Enfin, tout est lié, en fait. Tu es conditionné à être drôle pour briser la glace parce que les gens sont mal à l'aise. Tu es conditionné à parler fort parce que tu es plus bas et du coup, il faut qu'ils t'entendent. Et tout ça, c'est lié, en fait. Ça a beaucoup forgé ta personnalité.
Je pense que c'est une. Je pense que tout y est lié. Je pense que je prends de la place instinctivement. Je pense que je pense que je peux être assez paresseux dans le sens où je sais que personne ne va me galer dessus. Donc, tu vois, à l'école, je faisais absolument rien. Et et c'était pas grave. Si je voulais sécher les cours, je séchais les cours et personne ne disait rien. Je pense que je suis... je juge les gens assez facilement. Ce qui est, je pense que ça a impacté un peu le métier que je fais parce que j'ai une capacité à lire les gens qui est facile. Et aussi, on parle plus d'eux que de moi. Et ça conforte le fait pour moi que je maîtrise chaque interaction que j'ai alors que ce n'est pas le cas. C'est un peu un safe zone d'entretien. Pas que j'ai besoin d'un safe zone, mais finalement, je maîtrise tous les paramètres. Et donc, du coup, c'est moi qui décide comment ça se déroule. Je pense que je suis très, très indépendant au point d'être un peu quand je me coupe des autres. Je pense que j'ai besoin de maîtriser ce que je fais. Je pense que j'ai l'impression que je dois tout réussir ce que je fais, sinon je vais foirer. Plein de choses sympas comme ça. Plein de psychoses sympas comme ça.
Est-ce que ça te pèse sur ta santé mentale?
Peut-être, peut-être pas, mais j'ai pas le choix, donc je fais avec. En fait, c'est une question en soi qui n'est pas forcément très utile. Moi, j'essaie de me... Je suis assez fan de penser que des choses qui sont utiles. Et je pense que là aussi, c'est lié. Je pense que je me suis entraîné à ne penser que des choses qui m'étaient utiles. Et donc, du coup, j'essaie de ne pas penser trop sur ça, parce qu'effectivement, je pense que si on est très honnête, sûrement, ça a un impact. Pas forcément sur ma santé mentale, mais sur ma psychologie. À quel point est-ce que les deux choses sont séparées, j'en sais rien. Mais forcément, le fait que tu es différente depuis que tu es née de tout le monde et que tout le monde te fait ressentir à tout moment, forcément, ça a un impact. C'est la manière dont tu interagis avec les gens. Peut-être pire que ça, tu sais que ça va être comme ça jusqu'à ce que tu meurs. Donc il n'y a pas de fin. Et tu sais que les problèmes que tu as aujourd'hui, tu vas les continuer à les avoir jusqu'à ce que tu meurs. Et tu rajoutes des problèmes sympas, comme tous les problèmes de santé que tu vas avoir quand tu passes toute ta vie assis. Donc, effectivement, je pense que ça, si j'y passais beaucoup de temps à y penser, je pense que ça pèserait sur ma santé mentale. Il s'avère que je choisis de ne pas y penser trop.
Est-ce que la notion de safe place a un sens pour une personne en situation de handicap, dans la mesure où tu n'as pas forcément envie de te retrouver avec que des handicapés et en même temps, ils seraient aptes à comprendre
Non, en fait, il faut bannir les safe spaces, je pense. Je pense que c'est... Le safe space, c'est l'institution.
C'est-à-dire ?
C'est là où on te parque, c'est là où on te gare.
Le cistana.
C'est là, finalement, si tu vas au bout de la pensée de safe space, c'est ça. Là, tout le monde te comprend, t'es pas confronté à l'extérieur. On te prend en charge, on fait exactement ce qu'il faut, t'as le bon médoc. C'est exactement ce qu'il faut. Pas. La seule manière que les gens vont se sentir... Et pour les handicapés et pour les personnes qui ne sont pas handicapées, c'est d'être confronté à la réalité des mondes et de prendre toutes les claques dans la gueule que tu vas prendre.
Et tu as évoqué plusieurs fois le fait de peut-être pas être le meilleur représentant des handicapés ou de pas vouloir être dans une association. Ça rejoint cette idée en fait de ne pas être parqué tous ensemble.
Je pense, oui. J'aime pas l'idée que tous les handicapés se mettent dans un mini-car et on va au théâtre. Si vous regardez ce que font les assos, c'est ça, hein, c'est... Toutes les mères des enfants handicapés qui sont tous des bons catholiques, ils vous embarquent tous dans un minibus et vous allez tous au théâtre et on vous achète un glace. C'est pas ce que je veux.
Et en fait, tu milites quotidiennement en ayant une vie normale.
Oui, sauf que non. C'est là toute la paradoxe du truc. Je ne suis qu'un jeune homme qui a un travail et qui vit dans une ville capitale. Dès qu'on attache plus de choses à moi que ça, on sait plus de quoi on parle. Il faut me juger sur ce que j'ai fait et pas ce que je suis. Même pas qui je suis, ce que je suis. C'est que oui, t'as raison. En même temps, je ne fais que vivre. Et si tu m'admires parce que je milite quotidiennement en vivant un handicap, ça veut dire qu'en fait, on ne parle pas juste de ma vie quotidienne, qui est le fait que j'ai trop mangé au déjeuner et que ce soir, j'ai un date, quoi. Tu vois ? À la fois, t'as raison que je milite quotidiennement, mais je fais que ça en vivant. Et le fait de vivre comme ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui devrait porter une attention exceptionnelle. Tu vois la nuance du truc ?
Oui.
Parce qu'effectivement, tu es un peu tombé dans la piège du truc. Ce qui est de dire que tout handicapé est un militant héroïque parce qu'il vit. Effectivement, t'as raison. Je suis superbe.
Non.
Mais c'est ça le problème.
Non, ce que je voulais dire par là, c'est que dans ta vie quotidienne au travail ou dans les transports en commun, tu montres les défauts des infrastructures.
Ouais.
Et du coup, ça alerte tout le monde.
Non, je pense pas que ça alerte tout le monde.
Et parce que tu compenses sans arrêt.
Oui, parce que je fais ma vie, parce que j'ai pas une caméra vidéo avec moi où je vais. Parfois, je gueule sur Twitter si j'ai besoin d'avoir un billet remboursé à Ouigo, mais les gens pensent que, je pense que c'était un lapsus que tu disais, mais les gens pensent que justement, tous les jours, c'est un combat et je suis quelqu'un d'héroïque parce que je fais ça. Et effectivement, c'est un combat tous les jours et parfois, j'y pense comme ça. Sauf que si les gens vont t'admirer parce que tu fais tes courses toute seule, ils vont jamais te comprendre pour qui tu es.
Et est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire?
Non. Je ne pense pas parce que je ne suis pas. Je pense que j'ai peut-être la chance, moi je viens d'une famille plutôt aisée en Angleterre. Pas super super riche, mais plus aisée que les moyens. Mon père, c'est un peu un self-made man, donc il a gagné de l'argent tout seul. Mais je ne suis pas entitled. Et donc je pense que j'ai toujours été assez conscient de ma place par rapport à ça et comment les gens me voyaient. Et donc du coup, je ne me suis jamais senti comme si je faisais partie d'un groupe supérieur ou inférieur aux autres.
Et qu'est-ce qui te donne de la force, Matt?
Le fait que je n'ai pas le choix. C'est que ça, hein, mais je n'aurais pas choisi celui-là, il y a plein d'inconvénients. Mais je n'ai pas le choix, il faut que je fasse avec. Finalement, on se doit d'essayer d'être heureux. Sinon, on ne le fait pas nous-mêmes, il n'y a personne qui va nous rendre heureux. Il faut tout faire pour se donner la vie qu'on aimerait avoir.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud.
La musique du générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.